Bonjour à tous et bienvenue sur Positron, l'émission qui vous fait un zapping de bons plans tellement excellent que vous n'aurez plus jamais le temps de vous ennuyer. Bonjour à tous et bienvenue sur Positron pour ce 84e épisode déjà. On vous recommande 3 trucs cool en 20 minutes. On parle de jeux vidéo, de séries, de comics, de musique, de films, tout ça. Mais aujourd'hui, on va avoir un épisode un petit peu particulier où on va parler uniquement de jeux vidéo. Mais vous inquiétez pas, il y aura des jeux vidéo pour tous, pour tout type de joueurs. Donc ne quittez pas forcément cet épisode parce que même si vous n'êtes pas un gros joueur, parce que vous allez voir qu'il y aura peut-être des trucs qui vont vous plaire. Et je dis ça parce que c'est vrai que on est tous les trois avec Johan et Guillaume des grands fans de ce média, donc on ne pouvait pas faire une session de Positron sans se consacrer entièrement à notre média préféré peut-être, qui est le jeu vidéo. Comment ça va, les jeunes? Vous êtes en forme?
Ça va très très bien.
Bah, très bien depuis tout à l'heure. Enfin depuis il y a deux semaines.
Depuis il y a 15 jours. Depuis il y a combien? C'est ça. Donc oui, jeux vidéo uniquement. Est-ce que c'est votre média préféré, le jeu vidéo?
Oula. je sais pas si c'est intéressant de comparer les médias et de dire la musique c'est mieux que les jeux vidéo.
Non, c'est pas ce que j'ai demandé. J'ai demandé si c'était ce que vous préfériez. C'est pas la même chose.
Moi, c'est ce que je préfère.
Pourquoi choisir, tu vois?
Je peux en tirer une expérience musicale parce qu'il y a de la musique dans le jeu vidéo. Une expérience cinématographique parce qu'il y a des jeux qui sont très cinématographiques. Mm-hmm. Donc voilà. Donc oui, c'est mon média préféré.
Ouais, peut-être.
C'est le média auquel je consacre le plus de temps, on va dire ça comme ça.
D'accord. Bah écoute, c'est effectivement un bon moyen j'allais dire éviter la question, mais même pas. C'est un bon moyen. Non, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas forcément de trucs préférés. On a évoqué des choses dans les épisodes précédents de notre session qui m'ont procuré tout autant de plaisir. Finalement, c'est peut-être pas en parlant de médias, mais d'œuvres spécifiques.
Voilà.
Et effectivement, j'aurais du mal à dire, par exemple, quelle est mon œuvre préférée. Est-ce que c'est un film, un album de musique ou un jeu vidéo? Je sais pas.
C'est ça.
Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a un jeu qui m'a procuré énormément de plaisir cette année, ou en tout cas l'année dernière.
Bien essayé.
Bien essayé, effectivement. Et pourtant, j'ai essayé Undertale, mais tu vas m'expliquer.
Ah, on en parlera, ouais, oui, je t'expliquerai.
Dans quelques minutes. Non, c'est un jeu beaucoup plus simple que ça, beaucoup plus qui va vraiment droit au but. C'est un jeu qui s'appelle Doom, et qui n'est pas le Doom des années 90, mais bien le Doom de l'année dernière, de 2016. C'est alors ceux qui se souviennent du vieux Doom de leur enfance, de l'époque des premiers ordinateurs qui pouvaient faire de la 3D, en garde certainement un souvenir ému. Et en fait, il y a eu différents... Doom est tombé un petit peu dans l'oubli pendant de longues années. Il est revenu pour Doom 3, qui était une version vraiment différente, qui était plus dans l'esprit jeu d'horreur, où l'angoisse prenait le pas sur la décharge d'adrénaline qui était les premiers épisodes. Et il était pas mal pour ce qu'il était, mais il était pas fidèle au Doom d'origine. Et là, en 2016, est arrivé Doom, qui a simplement été intitulé Doom tout court, qui était vraiment fidèle à ce qu'était le Doom d'origine, non pas dans les graphismes ou dans la nostalgie qu'on peut avoir peut-être de manière un petit peu contre-productive parfois dans le jeu vidéo et dans d'autres médias où on essaye de faire exactement ce qu'on faisait à l'époque, mais plutôt dans le fait de réimaginer ce qu'était le jeu de l'époque pour la technologie d'aujourd'hui et ce qu'on peut faire aujourd'hui dans ce média. Et Doom est un succès absolument intégral dans cette démarche, dans cette philosophie, parce qu'il réussit à recréer avec les avantages qu'on a aujourd'hui, que ce soit dans la technique, mais aussi dans le game design, le plaisir qu'on retrouvait dans le Doom d'origine. Et il y a cette vitesse, cette rapidité dans le jeu et cet aspect de satisfaction dans la violence du truc où on va utiliser notre fusil à pompe, les différentes armes qui sont à notre disposition pour exploser des dizaines et des centaines de démons.
Tu sais à quoi ça me fait penser ça ? Je t'interromps juste
Diablo.
Deux secondes parce que j'ai un peu analysé. Oui, exactement. C'est vraiment la sensation que t'as dans Diablo 3 quand tu exploses des cadavres avec une espèce de retour de force sur ce que t'es en train de faire sur la créature, et t'as vraiment ça dans Doom aussi.
C'est ça, c'est vraiment, en fait, c'est marrant, je me suis fait la réflexion il y a 2 mois, puisque c'était il y a 2 mois, hein, là on enregistre bien sûr en janvier, et je me suis fait cette réflexion, c'est un petit peu ce genre de plaisir qui n'est pas une transposition directe, mais c'est ils ont refait le truc à partir de zéro et ils l'ont reconstruit pour arriver au même type de sensation, mais avec adapté à ce qu'est le média aujourd'hui. Donc une honnêteté intellectuelle dans le game design du jeu. C'est peut-être un truc que vous avez déjà entendu si vous écoutez le rendez-vous jeu aussi, mais il y a une honnêteté des développeurs intellectuels qui est vraiment satisfaisante. Il y a par exemple dans l'une des premières scènes, vous arrivez devant un écran avec votre personnage et dans cette scène, sur l'écran, on vous explique comment va fonctionner le jeu et ce que vous allez devoir faire, comme on le fait souvent dans les jeux d'aujourd'hui. Et là, votre personnage, donc le Doom Marine, le Doom Slayer, il attrape l'écran, il met un énorme coup de poing dedans et il le balance à travers la pièce. Et c'est vraiment l'idée pour les développeurs de vous dire, c'est pas qu'ils vont pas vous tenir la main, c'est pas que c'est un jeu où on va vous punir, mais par contre c'est un jeu où vous allez apprendre petit à petit en jouant. Et pas en ayant des instructions qui vont vous dire maintenant appuyez sur telle touche ou maintenant appuyez sur tel truc. Et c'est pas un jeu dur, c'est pas un jeu brutal dans le sens où comme les jeux comme les Dark Souls, on va vous apprendre en vous faisant mourir 15 fois sur le mur contre lequel vous allez buter jusqu'à ce que vous compreniez comment fonctionne. Non, là on va quand même vous amener petit à petit des monstres de plus en plus forts. Mais il n'empêche donc c'est accessible. Mais c'est pas un truc qui va vous prendre par la main.
C'est un peu exigeant sur la fin, quand même. Hein.
Ouais, c'est vrai que à la fin, j'ai commencé à mourir un petit peu. Je me disais au début, c'est quand même facile. Mais du coup, tu vois, sur la fin, je réussissais à faire des trucs et je me disais, je vais garder mes armes les plus puissantes pour le moment où ça sera dur et je les utilise pas trop. Et du coup, je me retrouve avec trop de munitions, quoi, parce que je réussis. Et il y a un sentiment hyper satisfaisant où tu te dis, ouais, en fait, je suis quand même tellement bon que c'est quand même un peu trop facile pour moi, tu vois. Donc voilà, un vrai plaisir jouissif de jeux vidéo pur, quoi.
Ouais, en fait, le jeu te met dans un espèce de flow parce que tu es obligé de te déplacer constamment dans ce genre, c'est des arènes un peu fermées et donc tu peux sauter assez haut, faire des doubles sauts, etc. Et donc tu te retrouves à te déplacer constamment et puis à tirer à vue, puis tu es dans une espèce de rythme comme ça, de flow. C'est vraiment très très agréable en main, en fait.
T'as envie d'y retourner, et moi, même après l'avoir fini, je me dis, mais il faut que je recommence à jouer à plus dur, plus machin,
ouais,
et alors que je suis pas du tout client des jeux comme Dark Souls qui sont très brutaux. Donc, si vous voulez savoir ce qu'est le jeu vidéo pur et que vous n'avez pas les tripes pour du jeu vidéo dur, comme Dark Souls, essayez Doom, ça vous donnera une expérience que peut-être vous n'aurez pas ailleurs. Enfin, oui, là, j'ai terminé mon conseil, mais j'ai vraiment envie de vous écouter, vous aussi, me dire ce que vous pensez du.
Mais bon, moi, j'avais une question. Est-ce que depuis la sortie du jeu, on parlait au tout début, à l'époque de la sortie, on parlait de l'éditeur de niveau. Est-ce qu'il y a un peu de contenu qui s'est rajouté à ce niveau-là, des niveaux super durs par des furieux de Doom qui ont fait des trucs super impressionnants?
Moi, j'ai pas encore vraiment exploré le truc au moment où on enregistre.
Pareil.
Ok.
Par contre, ils ont rajouté un mode arcade.
Ce que j'ai vu, c'est qu'ils avaient rajouté un mode où ils mettaient l'arme au milieu de l'écran, comme dans Doom, comme dans le Doom original, pour avoir l'arme au centre. Je trouvais ça marrant.
Bah écoute, je vais aller explorer ça un petit peu plus. J'ai pas fait le multijoueur non plus, qui devrait être intéressant.
Ça, il paraît que c'est une vaste blague.
Alors, du coup, pour répondre à ta question, moi je suis encore sur le jeu. Je suis pas tout à fait fini. Je suis probablement vers la fin. C'est un jeu que j'ai acheté quasiment à la sortie du jeu, donc je prends mon temps, on peut dire ça. Et c'est un jeu en fait assez particulier parce que quand je n'y joue pas. Je n'y pense plus, j'ai d'autres jeux qui arrivent et j'y pense plus. Par contre, il y a un moment donné où je vais avoir besoin de ma demi-heure de Doom, je vais lancer le jeu, je vais jouer, je vais prendre un plaisir vraiment, vraiment, vraiment très, très fort sur le jeu pendant la demi-heure et puis je vais, à la première mort venue, je vais probablement arrêter et puis reprendre plusieurs jours après, en fait. C'est un peu
c'est
mon
marrant,
mode
moi,
de fonctionnement sur le jeu.
Je l'ai aussi acheté à l'époque et, pardon, il est sorti en mai 2016, quelque chose comme ça, peut-être avril, et j'y ai pas joué pendant des mois, et je sais pas pourquoi je m'y suis replongé en novembre-décembre, et je l'ai plus lâché, quoi. Mais c'est vrai que c'est un
nominé,
jeu qui a peut-être...
Il était nominé
c'est peut-être pour
au
ça,
The Games Award.
C'est peut-être pour ça, effectivement, que je m'y suis réintéressé, mais... Donc voilà, bref, Doom, jeu vidéo absolument extraordinaire que je recommande. Si vous aimez les jeux vidéo, je pense qu'il faut s'y intéresser, surtout qu'il doit plus être trop cher en ce moment. Donc voilà, Doom,
alors, il y a une astuce sur Steam, quand on parle de jeux vidéo ici. N'hésitez pas, si ça vous intrigue, de prendre le jeu sur Steam et de l'essayer, s'il n'y a pas de démo, de l'essayer une heure. Et si au bout d'une heure, vraiment, vous voyez que le jeu est vraiment pas pour vous, vous pouvez demander à être remboursé sur Steam. Et puis si le jeu est pour vous, bah vous continuez, vous vous amusez, et puis c'est génial.
Ouais, on est d'accord. Très bien, bah justement, on continue avec les jeux vidéo, et j'observe la transition que m'a mis Johan dans les notes de l'émission. Après un jeu vidéo qui va vous faire travailler vos muscles, enfin les muscles virtuels, on a un jeu qui va nous faire travailler le cerveau, pour le coup le cerveau bien réel, dont je vais te laisser parler.
Donc alors le jeu en question c'est The Witness, qui est un jeu de Jonathan Blow, qui avait déjà fait Braid, qui était un jeu qui avait un peu démarré la vague indépendant à l'époque. Alors j'ai plus l'année en tête, mais c'était sur Xbox 360, ça commence à dater un peu, ça doit faire 10 ans je pense, non? Je sais plus.
Ouais, oui, Braid,
qui
ça
était
doit
déjà
avoir
un
bien
jeu
10 ans, ouais.
Qui était déjà un jeu de réflexion plateforme assez difficile.
2008,
donc là,
Braid.
Voilà, 2008. Donc un peu moins de ça fait 8 ans.
Donc, 9 ans, tu veux dire.
9 ans, oui.
Donc, The Witness. Puisqu'on est en 2017, tu te souviens. C'est ça le truc.
C'est ça. Ah oui, oh là là. C'est difficile de voyager dans le temps.
C'est compliqué,
super vite.
C'est compliqué.
Du coup, c'est un jeu de puzzle. Au sens littéral du terme, quasiment. C'est beaucoup le décrivent comme un Myst moderne. Donc, je sais pas si vous vous rappelez Myst. Alors, pour ma génération, Myst, c'était le jeu que les parents offraient aux enfants parce que c'était un jeu intelligent, qui était pas brutal et où on pouvait réfléchir. Donc, on était perdu sur une île, on résolvait des énigmes. Et donc, The Witness, on est perdu sur une île et on résout des énigmes. Donc, je parlais de puzzle littéral. En fait, les puzzles sur l'île sont représentés par des écrans LCD qui sont partout sur l'île. Et sur l'écran, il y a un puzzle à résoudre qui peut... Pour vous faire une image dans la tête, c'est vraiment les puzzles comme dans le journal local. Il y a un petit labyrinthe, etc. à résoudre. Et donc, en fait, c'est... Les puzzles sont de plus en plus complexes au fur et à mesure qu'on avance. Et en fait, le génie du jeu... C'est d'arriver à vous faire comprendre les règles de ces puzzles-là. Donc, il y a plusieurs types de puzzles. Il y a des labyrinthes, donc où il faut partir d'un point A, arriver à un point B. Il y a des formes, il y a certains autres puzzles où il faut faire des formes avant de finir le labyrinthe. Il y a d'autres puzzles où il faut entourer les points de couleur blanc ensemble, couleur noire ensemble avant de finir le labyrinthe, etc. C'est de plus en plus complexe comme ça. Et tout le génie, justement, de Jonathan Blow sur ce jeu, c'est de réussir à vous apprendre les règles des puzzles sans jamais rien afficher de texte à l'écran. On est complètement lâché, on est livré à nous-mêmes, mais on est guidé par en fait la structure de l'île et la montée en difficulté des puzzles au fur et à mesure. Donc l'île se découpe en plusieurs portions, et chaque portion représente en fait une règle du jeu. Et donc dans chaque portions, vous avez le puzzle le plus facile. Donc, par exemple, le labyrinthe, le premier labyrinthe, c'est juste une ligne. Donc, il y a le point d'arrivée, le point de départ. Et donc, vous tracez la ligne et pouf, vous avez fini le puzzle. Et vous comprenez que sur ce type de puzzle-là, il va falloir partir d'un point A à un point B. Et c'est pareil pour toutes les règles du jeu. Et c'est un jeu qui est très satisfaisant parce que, comme le jeu est très pédagogique, en fait, c'est une pédagogie vraiment très très subtile. Il y a plein de fois où vous allez buter sur un puzzle pendant, je sais pas, 15-20 minutes, et vous allez en avoir marre, vous allez éteindre votre jeu, vous allez revenir quelques heures plus tard et vous allez réussir du premier coup. C'est vraiment quelque chose. On sent que le cerveau a travaille tout seul de son côté pendant qu'on lâche le jeu. Et puis quand on revient, c'est vraiment une libération. C'est vraiment très très
satisfaisant. Je sais pas comment
dire. Ouais, c'est vraiment très très satisfaisant à faire. Et donc on peut faire le jeu, on avance dans l'île comme ça. Il y a aussi de la narration environnementale un petit peu. On en avait parlé pour Abzu et pour Inside. Là c'est un peu pareil. Il y a des choses dans le décor qui racontent une histoire. On a des gens qui sont pétrifiés, toute une machinerie un peu bizarre. C'est une ambiance vraiment très bizarre. Et on peut essayer de comprendre. On peut essayer de trouver des théories sur pourquoi c'est là, etc. Et donc voilà, il y a ce premier niveau de puzzle où on avance jusqu'au centre de l'île et puis voilà, on peut se contenter en fait d'aller résoudre ces énigmes là, mais il y a différentes couches en fait d'énigmes. On va se rendre compte que finalement les puzzles ne sont pas que dans les écrans. Il y a des puzzles dans l'île. Par exemple, si on se met un certain point de vue avec un certain angle, la montagne avec tel bâtiment, ça fait un labyrinthe et que tu peux résoudre aussi à la souris. Donc ça, c'est ce genre de choses-là. Et donc là, on peut vraiment... Alors là, pour finir le jeu, je pense que moi, je n'en suis pas là. Mais voilà, c'est vraiment... en fait, c'est un jeu où vous allez finir par... vous allez être devant votre puzzle, donc ça va commencer à devenir un peu complexe. À prendre une feuille de papier, dessiner des formes, découper des bouts de papier pour les agencer ensemble, essayer de résoudre le problème d'abord physiquement parce que avec l'appréhension du crayon de la main, on y arrive mieux, etc. Et enfin, moi, je me suis retrouvé pendant une semaine avec des bouts de papier partout. J'avais l'air d'un fou, tu sais, qui a ses théories sur qui limite toute la carte sur les murs.
Tu fais ton petit truc sur ton tableau de liège avec des fils qui vont d'un morceau à l'autre.
Donc ça, c'est un des jeux qui m'a procuré vraiment des sensations. En fait, c'est des sensations que j'avais perdues parce que, comme je le disais, c'était le genre de jeu qu'on offrait aux enfants pour pas qu'ils jouent à des jeux violents. Mmh. Et quand j'ai arrêté d'avoir l'âge qu'on m'offre des jeux, je me suis acheté la plupart des jeux que je joue aujourd'hui sont des jeux plutôt d'action, etc. Et ça faisait longtemps que je m'étais pas arrêté sur un jeu de pure réflexion comme celui-ci, et on redécouvre ce plaisir-là de résoudre des énigmes simples et puis complexes.
D'accord, très bien. Moi, je sais pas si c'est vraiment mon genre de jeu.
Mais est-ce que tu l'as essayé?
Moi, je l'ai pas essayé, non.
Ça m'a pas du tout parlé en fait, parce que on est largué sur cette île, on nous dit rien du tout et on doit se promener. Et je me sentais tellement seul et tellement lâché, sans accompagnement et enfin sans vraiment comprendre ce que je devais faire, que j'avais pas la force de me poser le but tout seul et de vouloir, que je voulais faire tous les puzzles ou quoi. J'avais pas la force de me poser un objectif et de vouloir le faire sans qu'on me le dise de le faire.
C'est intéressant parce que généralement t'es plutôt, j'ai l'impression client des jeux.
Mais tu m'as déjà dit ça, oui, que j'aimais que les jeux indé, etc. Mais
non, pas forcément indé, mais je veux dire des jeux qui font, qui vont chercher quelque chose dans le média du jeu vidéo. Oh, tu vois.
Mais dans ce cas-ci, je trouve ça un peu prétentieux.
Il y a une certaine prétention. On va dire dans la démarche, mais en fait c'est réalisé avec tellement de brio. En fait c'est
je trouve que c'est légitime mécanisme. Parce que c'est très bon. Okay.
Oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est Jonathan Blow est prétentieux, mais comme c'est un génie, il a le droit.
Effectivement, ouais, un petit peu
ça m'a pas très ouais. Ça m'a pas vraiment parlé en tout cas.
Bon, mais toi tu le recommandes à tout le monde quand même, Johan. Tu dis que c'est un jeu qui peut plaire à tout le monde.
Alors effectivement, enfin c'est compliqué de dire à tout le monde parce que il y a forcément des gens qui vont être hermétiques, soit au fait d'être lâchés sans directive claire, soit à juste résoudre des puzzles. Donc probablement pas pour tout le monde. Donc je dirais peut-être plutôt pour fans, effectivement.
D'accord. Ok. Très bien. Et ben écoute, donc merci pour The Witness. Je me retourne du coup vers Guillaume. Ça va être marrant parce que ce que tu viens de dire sur The Witness, c'était un peu mes impressions sur le jeu dont tu vas nous parler. Donc voilà, je suis curieux de t'entendre le décrire et le défendre.
Mais de toute façon, vous ne saurez pas attaquer le jeu que je vais présenter puisqu'il a été élu Best Game of the Year par GameFAQT en 2015. Du coup, il est intouchable. C'est le meilleur jeu, titre qu'il mérite complètement. Bon, alors, non, mais plus sérieusement, je vais vous prévenir avant de commencer ma critique, avant mon feedback sur le jeu, que je pense que vous ne serez pas convaincu quand j'aurai fini. Je pense que c'est un jeu, soit on est follement amoureux comme je le suis, soit on l'est pas du tout. Mais voilà. Bon, je vais quand même essayer de vous le présenter un petit peu. Donc, concrètement, l'histoire, c'est un monde un peu fantaisiste où, Les monstres et les humains se sont affrontés il y a très 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 longtemps et les monstres ont fini par être enfermés dans une espèce de cave, dans un monde sous terre dans lequel il n'y a pas d'humains. Et donc ils vivent leur vie là-dedans, ils font leur truc de monstre. Et un jour...
ils font leur truc de monstre, j'adore.
Voilà. Et un jour, le protagoniste se promène en forêt ou quoi, il trébuche sur une racine, il tombe dans un trou et bouf, il arrive dans le monde des monstres. Et on est accueilli par une petite fleur qui nous parle et qui nous salue. Et au début, on pense que la fleur, elle est très gentille, mais en fait, la fleur est très, très méchante et elle essaye de nous tuer, elle essaye de nous prendre notre vie. Bon, donc ça, c'est l'histoire. Et en gros, le protagoniste, il essaye de sortir Pardon ?
C'est pas une fille, le protagoniste. Ah, c'est une question. D'accord, ok. Ne dis rien.
C'est un personnage qui n'est absolument pas gendré, puisque on regarde le sprite et on ne sait pas si c'est une fille ou un garçon. Et donc... Si j'étais un psychologue, je dirais que tu vas passer le test de Rorschach où je montre la photo du personnage et je te demande si c'est une fille ou un garçon. Donc voilà. Patrick pense que c'est une fille.
Ouais, j'avais cette impression, effectivement.
Non, mais donc on ne sait pas. Le personnage ne parle pas, il est muet comme dans Zelda, par exemple. Et donc, le but c'est, pour le personnage, c'est de se casser, de retourner dans le monde des humains. Et donc, ça se complique un tout petit peu, puisqu'il se rend compte que les monstres, en fait, ils sont pas méchants du tout. Enfin, il y en a qui sont méchants, il y en a qui sont très très gentils. Et c'est un peu nuancé, parce que est-ce qu'on a envie de tuer les monstres pour se sortir alors qu'ils sont quand même gentils? Enfin, voilà, bon. C'est léger comme histoire, mais c'est mignon. En termes de look, c'est un jeu qui est sorti donc en 2015, mais qui emprunte le look des vieux jeux NES, comme, comment il s'appelle encore ce jeu? J'avais sur le bout de la langue. Mother, voilà. Un look très 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 8 bits, très très carré. Pas impressionnant du tout techniquement. Faut dire que le jeu a été fait par une seule personne avec l'aide de quelques gars qui l'ont aidé. Il a été fait par Toby Fox, qui est un musicien à la base. Et donc, il est pas expert du tout en programmation, en design artistique, en réalisation d'assets pour les jeux, etc. Et donc, il a fait ça, je crois, avec, un petit logiciel gratuit pour faire des jeux à 2 balles sur Windows. Et donc le jeu est disponible uniquement sur Linux, Mac et Windows. Et donc c'est vraiment un jeu qui est pas du tout professionnel, pas du tout impressionnant techniquement. Donc ça c'est pour l'aspect look. On peut dire quand même qu'au niveau du design, il s'est fait un petit peu aider. Et quand on concrètement, on se promène dans cet univers en 8 bits. Et puis de temps en temps, il y a les combats qui se déclenchent. Et quand on voit les sprites des monstres pendant les combats, là, il y a un certain travail artistique, il y a un petit quelque chose qui se dégage, c'est plutôt réussi. Et donc concrètement, le gameplay, donc comme je disais, c'est un RPG, où on a les plus vagues notions d'aller acheter des armes, des armures, même si c'est complètement accessoire en fait, on peut faire tout le jeu sans le faire. Et puis les combats, ça démarre un peu comme un Dragon Quest où on a l'écran tout noir et l'ennemi en blanc devant nous. Et une fois qu'on passe en mode attaque, ça c'est comme dans Dragon Quest, mais quand on reçoit une attaque, à ce moment-là, il y a un truc un peu spécial. Ça se transforme un peu comment on appelle ça encore ?
Un shoot'em up.
Shoot'em up, ouais, c'est ça, voilà. Où concrètement, on a le petit cœur rouge au milieu de l'écran. Et puis il y a des boulettes, il y a des éléments blancs qui vont arriver dans la zone et il faut les éviter, il faut bouger le petit cœur pour éviter de perdre des points de vie. Et mine de rien, ça fait un système de combat assez frais, assez novateur, où c'est pas juste comme dans un Final Fantasy, je clique sur le monstre et j'appuie sur, je lance une magie, je lance une attaque. Là, il y a vraiment une dynamique, ça rend le combat très très dynamique, très actif. On s'ennuie pas du tout. Bon, et alors le système de combat est très réussi. La musique est absolument géniale. Johan, j'ai envoyé un lien dans la conversation Twitter si tu veux lancer ça qu'on écoute.
J'étais prêt, j'avais pris les devants, j'étais prêt à balancer Megalovania si tu veux.
Vas-y, donc c'est celle que je t'ai envoyée par Twitter.
Je sais pas.
Mais on voit celle que j'ai envoyée par Twitter.
Attends, je vais la chercher.
Et donc, ouais, comme je disais, ça a été fait par un musicien, et donc c'est vraiment. Le jeu est génial de manière générale, mais c'est la musique où on observe vraiment une maestria totale.
Vas-y, on va. Il peut pas s'empêcher de chanter en même temps.
Non, mais c'est absolument délicieuse. Et oui, d'ailleurs, je crois que Gotoz, le spécialiste musique des jeux vidéo en France, on est follement amoureux lui aussi.
C'est vrai que c'est très entraînant. Ouais.
Mais c'est absolument génial.
Moi, je suis absolument fou de cette musique aussi.
Voilà,
je l'écoute souvent.
Au moins pour la musique, tout le monde est d'accord pour dire que c'est très bien. Donc, si vous n'êtes pas convaincu par mon plaidoyer, allez au moins checker la musique. C'est pas grave si vous écoutez la musique sans avoir joué au jeu. Il y a pas de spoiler dans la musique. Mais bon, là où ça divise beaucoup plus, c'est l'ambiance. Ce que le jeu essaye d'évoquer, il y a effectivement cette espèce d'ode au vieux jeu. Il y a des références un peu partout. Bah, je disais tout à l'heure que le système de combat, au moins, avant de rentrer dans ces phases shoot them up, il y a un petit côté Dragon Quest. L'aspect esthétique quand on se balade, quand on se promène dans le monde, ça évoque Mother. Il y a clairement un petit côté nostalgique. Bon, Dragon Quest, premier du nom, et Mother, c'est des jeux auxquels j'ai pas du tout joué, donc ça me parle pas, et c'est pas du tout un prérequis pour apprécier le jeu. Mais alors, là où ça divise vraiment, c'est que, messieurs, est-ce que vous êtes des millennials?
Moi oui, moi j'ai pas le choix.
Bah moi non, je pense pas, non.
Voilà, bon, je pense personnellement que ce jeu c'est un message, une chanson, un peu comme la chanson de Roland, c'est un cri de gloire pour la génération des millennials. Il y a vraiment quelque chose de très personnel quand on joue à ce jeu et qu'on revit des souvenirs lointains, on a l'impression, si tu veux, quand moi je joue à Undertale, en tant que millénial, j'ai l'impression d'écouter la mer, j'ai l'impression d'entendre la nature, je me sens complètement chez moi, ça me parle directement. Maintenant, ça ne parle pas à tout le monde. Si je sais que Patrick, est-ce que tu as essayé le jeu Undertale, Patrick?
Bah oui, en fait, je l'ai essayé au moment où tout le monde en parlait et j'étais vraiment curieux de voir ce que ça donnait. Et comme je le disais, pour moi, ça m'a fait à peu près l'effet de The Witness pour toi, Guillaume. Je suis pas rentré dedans, j'ai pas compris les raisons pour lesquelles tout le monde était aussi enthousiaste et j'ai l'impression que il y a quelque chose qui parle aux gens qui l'aiment, qui moi me parle simplement pas.
C'est ouais.
Ça fait vibrer une
et effectivement
une fibre
quand,
dans
quand,
le cœur quelque
part. Quand on tape quand on tape Undertale sur YouTube ou sur Google ou quoi, on est immédiatement submergé par des milliers, des milliards d'artworks. Il y a des gens qui dessinent les personnages de Undertale, qui font des fanfics et des trucs comme ça. Donc on voit
mais
à quel point
sais...
ça. Oui, vas-y.
Je comprends pas parce que en fait j'ai dû jouer 2 heures peut-être, un truc comme ça, et je me suis toujours demandé s'il se passait ensuite des trucs qui justifiaient cet amour qu'on avait pour le jeu.
Alors,
j'ai pas l'impression.
Où est-ce que t'en es arrivé en termes de plot?
Je me souviens plus vraiment, mais ce que
quoi,
je veux dire, c'est
dans
que
un village avec la neige ou
j'étais il y avait les deux squelettes qui
ouais.
étaient genre super marrants
qui font des petites blagues. Donc voilà. ça participe un peu à l'ambiance, c'est que il y a les monstres qui servent l'empereur et qui essayent de bloquer l'humain pour qu'il ne quitte pas
Le Royaume des Morts, c'est en fait... Je veux juste te dire pour mes impressions, le truc c'est que j'ai effectivement vu tout ce dont tu parles, c'est-à-dire ces références aux très vieux jeux, mais pour moi c'est juste des trucs que j'ai connus il y a 30 ans, tu vois, et donc c'est juste bah ok, quelqu'un a refait la même chose, je vois pas
les références, c'est pas le centre du jeu, c'est juste un petit clin d'œil, c'est voilà quand
non, mais
quand
même
vous avez joué à ça,
dans le gameplay, non, dans la narration, tout
le système de combat, on n'a jamais vu ça, Patrick.
Oui, mais c'est pas forcément... Tu vois, le système de combat, on n'a jamais vu ça, c'est l'équivalent d'un Galaga ou d'un truc comme ça qu'il y avait à l'époque, tu vois. C'est vrai que ça a jamais été imbriqué comme ça dans les dans un jeu, mais c'est pas que j'ai vu ce système de combat qui est une sorte de shoot'em up, et je me suis dit, oh là là, c'est un truc incroyable. C'est juste qu'il a mis un shoot'em up dans ce RPG, tu vois. C'est comme ça que je l'ai ressenti.
C'est pas novateur à proprement parler. Mais je pense que notre génération est une génération où il y a une culture du remix, culture de j'ai beaucoup aimé ça, je vais m'en inspirer, je vais reprendre un peu. Et donc ouais, c'est un jeu qui reprend des éléments intéressants de tous les jeux cultes dont il est question,
mais tu vois,
ça n'enlève rien au jeu.
Non, mais je dis pas que ça enlève quelque chose. C'est juste que pour moi, la manière dont je l'ai ressenti, la somme de tous ces éléments n'est pas plus grand que tous les éléments qu'il met ensemble. Et je crois que c'est en ça qu'on a un ressenti très différent, c'est que les gens qui ont aimé ce jeu y ont vu un hommage et une addition qui crée un produit qui sublime toutes ces parties. Et pour moi, je me suis arrêté aux parties uniquement.
Je pense vraiment que l'hommage n'est pas au centre du jeu, et on ne joue pas Undertale pour rendre hommage ou pour se souvenir par nostalgie. Mais comme je disais, il s'inspire, non pas pour rendre hommage, mais pour que la somme des parties soit supérieure.
Comment est-ce qu'on dit encore? Ça m'a pas parlé, alors, tout simplement.
Moi, j'étais aussi parti d'un mauvais pied avec Undertale, puisqu'on m'avait vendu le jeu.
Vous êtes tous contre moi.
On m'avait vendu le jeu comme un jeu où je pouvais jouer sans tuer personne. Et ça, moi, c'est le genre d'argument qui me plaît beaucoup en général.
Vrai.
Et oui, c'est apparemment vrai. Sauf que j'ai commencé directement le jeu avec cette volonté-là, et c'est très 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 difficile d'arriver, alors j'ai compris, tu me diras si je me trompe, mais que c'est qu'il faut d'abord finir le jeu une fois, puis qu'après c'est plus simple, ou je sais pas s'il y a une mécanique là-dessus.
Quand tu fais le combat, tu peux soit te bastonner comme j'expliquais tout à l'heure avec le système de shoot 'em up, système d'attaque, ou bien à chaque fois tu as un petit bouton pour parler avec le monstre, et il y a parfois des monstres avec lesquels c'est très simple, on leur dit salut, au revoir, je vais pas te tuer. Et il y a des monstres avec lesquels il y a des petits trucs comiques, il faut faire un truc spécial à un certain moment, etc. Bref, c'est vraiment le mode hard. Hein. Si tu veux ne tuer personne, c'est le mode avec les trucs super cachés où il faut la soluce à côté pour savoir comment est-ce qu'on fait pour ne pas tuer tel boss.
Moi, j'avais été arrêté par ça à la base, et puis ça m'a beaucoup chagriné de ne pas pouvoir faire comme je voulais de manière normale.
Et donc effectivement, il y a trois fins. Donc il y a la première qu'on fait normalement, où on joue normalement. Et puis, une fois qu'on a fait la première fin, on peut recommencer le jeu, et on peut atteindre une fin spéciale si on arrive à tuer personne. Là, le boss de fin est différent, tout le tracé du jeu est très différent. Et puis, quand on a fait tout ça, on peut refaire on peut le faire dans l'ordre qu'on veut, hein, mais on peut refaire une dernière fois le run génocide, comme on appelle ça, où on tue absolument tout le monde, même ta mère adoptive au début du jeu, enfin tu tues absolument tout le monde, et de nouveau tu tombes sur un boss, le boss final, qui est le boss le plus dur que j'ai fait dans toute ma vie.
Je me suis spoilé, moi je suis allé voir un peu ce que j'avais loupé, et effectivement moi ce boss m'a limite donner envie de m'y remettre et de relancer le jeu, parce que j'aime bien les Dark Souls, ce genre de difficulté là ça me parle un peu.
Vous êtes des malades.
Mais complètement, c'est le boss de fin, c'est de nouveau une phase shoot them up où tu dois éviter tous les trucs qui t'arrivent, et alors t'as des projectiles qui arrivent à du 200 km/h et tu dois les éviter un pixel près, etc.
Il va falloir qu'on conclue, Guillaume. Je sais que tu pourrais parler d'Undertale pendant longtemps.
Non, mais je pense qu'on a fait le tour.
Mais il y a quand même un truc que je veux te demander, c'est que au moment où il est sorti, le jeu a été tellement j'ai envie de dire survendu, mais en tout cas tout le monde en parlait, voilà.
Je
m'attendais que tu à ce que tu nous parles un petit peu de la narration, de l'histoire, de l'émotion du truc.
Oui.
Et t'en as pas tellement parlé. Est-ce que c'est
c'est très difficile d'en parler en fait.
Sans spoiler, mais parce que là tu dis même pas que c'est un conte qui t'a touché ou un truc, tu vois, même sans rien spoiler, mais est-ce que ça a une valeur dans le jeu aussi, quoi, la narration, l'histoire, c'est vraiment juste du gameplay?
Non. Donc ça m'a touché, comme je disais, à un niveau générationnel, ça m'a très fort parlé. Les personnages sont... C'est vraiment des personnages qui parlent, je pense, seulement aux gens qui sont de la bonne génération. Donc on a par exemple une... Bien plus loin dans le jeu, je pense que vous y êtes pas arrivé, mais il y a une petite fille qui... Enfin, une scientifique qui est super fan de manga et d'anime japonais. Et alors elle nous envoie des SMS où elle fait des blagues sur les animés. Et alors elle se trompe de numéro et elle te vanne, etc. Elle parle dans un argot très très web, etc. Et c'est, j'aurais du mal à rendre hommage à ce qu'arrive à faire le jeu à ce niveau-là. Mais effectivement, je trouve le jeu charmant dans ses personnages, dans l'ambiance qu'il arrive à créer. C'est très difficile de poser des mots là-dessus.
C'est marrant parce que tout ce dont tu parles de génération et tu évoques des choses qui sont de ma génération. Mais j'ai l'impression que c'est des choses qui sont de ma génération, donc sur lesquelles moi je jette un regard peut-être un petit peu, pas froid, mais enfin... je sais pas, peut-être objectif ou factuel, et que ta génération, donc t'as un petit peu plus d'une dizaine d'années de moins que moi, ta génération et les millénials, dont je fais pas partie, vous regardez ça déjà comme quelque chose genre d'un petit peu vintage qui n'est pas de votre temps. Finalement, d'une certaine manière, tu vois, vous voyez ma génération et l'époque.
Il y a un peu de ça, ouais, clairement.
Tu vois, quand moi j'ai commencé tu disais elle adore les mangas. Moi j'ai commencé à lire des mangas au début des années 90. Tu vois, ta génération était très jeune à cette époque. Et donc vous voyez ça peut-être c'est une théorie complètement qui est peut-être complètement fausse, mais vous voyez ça en vous disant c'était l'ancien temps des mangas, alors que pour moi c'était mon actualité, tu vois. Je sais pas si allô.
Je dirais pas ça, mais
d'accord.
Les générations bon.
Ça va rester un mystère peut-être, cet Undertale. C'est juste qu'il parle à certaines personnes et pas à d'autres.
Voilà, mais en même temps, tu comprends pas Pokémon non plus. Donc, qu'est-ce que tu comprends, Patrick?
Encore une histoire de génération, je pense.
Voilà.
Bon, je comprends Doom. Voilà, moi, c'est ça que je comprends.
Bon.
On a donc le muscle, le cerveau et le cœur qui sont réunis dans cet épisode. Et moi, visiblement...
Quelle belle conclusion, Patrick.
Ouais, il n'y a que le muscle qui me parle. c'est dramatique, quand même. Non, c'est pas vrai. Il y a quand même des trucs un petit peu différents que j'apprécie, y compris dans le jeu vidéo, vous le savez bien. Bon, allez, on va conclure ce dernier épisode de cette session. Et donc, c'est le moment de se dire au revoir. Quelle tristesse. Voilà, là, tu vois, là, ça me serre le cœur. Là, j'ai de l'émotion. Mais il n'empêche, avant de se quitter, il faut que vous nous redisiez encore une fois où on peut vous retrouver sur Internet, à commencer par Johan. C'est désormais une tradition.
Donc, comme d'habitude, Johan at @y-pati sur Twitter, et bien sûr, sur le Slack du Rendez-vous Tech, accessible aux patriotes de $3 et plus.
Un endroit bonus sympathique où on se retrouve
Venez nombreux.
On s'amuse bien.
Voilà. Et donc pareil pour moi, @geeko86, il y aura un lien dans la description, sur le Slack de Patrick, si vous voulez qu'on parle d'Undertale, et sur www.quicklyric.be si vous voulez accéder à la preview de mon application qui sera sur le store dans pas longtemps. C'est une application pour avoir instantanément les paroles de la musique que vous écoutez, et elle est super cool.
Et elle est super cool, évidemment. Vous remercie, effectivement. Et si vous ne pouvez pas aller dans le Slack parce que vous n'êtes pas patriote, vous pouvez bien sûr venir discuter sur Twitter ou dans les commentaires de l'émission. Il y a plein, ou sur Facebook, etc. Il y a plein d'autres moyens pour parler ensemble et partager nos impressions sur toutes ces recommandations. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter et sur Facebook, justement, et sur FrenchSpin.fr. pour les notes de cet épisode et bien sûr toutes les autres émissions qui y sont, comme Upload, le Rendez-vous Tech, le Rendez-vous Jeu, vous connaissez tout ça. On vous remercie de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous a priori dans 15 jours pour le prochain épisode avec une nouvelle équipe qui va vous recommander des trucs très cool en 20 minutes. Ciao à tous.
Ciao.
Salut.